BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
C'est l'émission qui tente d'enrichir vos après-midi, de vous enrichir quand même aussi. Bienvenue à tous, il est là, Antoine Larigauderie. Et son mot du jour, bonjour Antoine,
bonjour.
Votre mot du jour.
Feuille, la fameuse angoisse de la feuille blanche.
Ah oui.
Signé un très bon premier semestre et surtout un deuxième trimestre avec des performances exceptionnelles pour la plupart des marchés. Et là, on commence ce second semestre sur une note négative. -0,86% pour le CAC 40. On est à 8331 points, mais à noter une nette surperformance de la tech encore avec un Euronext Tech Leaders qui gagne 0,05%. Du côté de Wall Street, on est dans le rouge, particulièrement la tech. Là, en revanche, -0,05% pour le Nasdaq, -0,04% pour le Dow Jones et le S&P 500, -0,24%.
Un deuxième semestre à suspense qui s'ouvre sur les marchés. On va avoir les publications des entreprises américaines. Dans deux semaines, ça va démarrer. Est-ce qu'elles seront au même niveau que celles du début d'année? Les mid-termes qui arriveront aussi début novembre. On fera un tour d'horizon des grands enjeux avec nos experts, des grands enjeux de ce deuxième semestre. En tout cas, on a des signaux favorables sur le front de l'inflation. L'inflation a ralenti plus qu'attendu en zone euro. Ça se confirme, on a le chiffre global de la zone euro aujourd'hui. Et en juin, elle passe à 2,8% l'inflation. Alors ça reste au-dessus de l'objectif de la BCE, mais c'est quand même bien inférieur à l'inflation du mois de mai. On va regarder dans un instant ce qu'en dit Christine Lagarde, qui est en train de s'exprimer à l'occasion d'une table ronde à Sintra, au Portugal, la conférence des grands banquiers centraux. On viendra aussi sur les chiffres de l'emploi américain, l'enquête ADP publiée aujourd'hui, et à Paris, Schneider Electric parmi les plus forts replis du CAC 40. Pourquoi l'acquisition annoncée par Schneider qui n'est pas du tout du goût des marchés. BFM Bourse sur l'ensemble de ces enjeux, de ces batailles, et BFM Business au cœur du reste de l'économie et de l'actualité, avec par exemple à suivre aujourd'hui les voitures vendues en Europe, les immatriculations de voitures neuves. Bien, elles ont augmenté, ces immatriculations en Europe, de 11,4% en juin sur un an. Mais c'est une hausse en trompe-l'œil, car si on tient compte des deux jours ouvrés supplémentaires cette année, la hausse n'atteint plus qu'1,2%. Un marché assez plat, donc, pour la plateforme automobile et qui reste toujours sous les niveaux d'avant Covid. La progression des voitures électriques se poursuit avec 30% de parts de marché, poussée par les nouveautés européennes comme la R5, mais aussi les constructeurs chinois. Le nouveau congé de naissance entre en vigueur, lui, aujourd'hui. Il permet à chaque parent de prendre 1 à 2 mois en plus de congés, des congés déjà existants. Ouais, 1 à 2 mois de plus que ce qui existait déjà. Et ce nouveau congé de naissance est également mieux indemnisé. 70% du salaire net le premier mois, 60% le second, avec un plafond à 4000 euros. Enfin, l'administration Trump a levé toutes les restrictions pesant sur les modèles d'intelligence artificielle les plus puissants d'Anthropic. Ça y est, les restrictions sont levées. Anthropic s'est engagé de son côté à détecter et traiter de façon proactive les risques de sécurité. Plus de détails tout à l'heure dans 18-19 et 10 Chevrillon. D'ici là, on est à vos côtés. On joue pour vous dans votre camp. C'est BFM Bourse. Bienvenue à tous.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Antoine, votre mot du jour, donc c'est feuille blanche à l'entame de ce deuxième semestre pour les marchés financiers. On espère qu'il sera aussi bon que le premier parce qu'on sort d'un semestre assez exceptionnel. Bon, là, on n'entame pas ce deuxième semestre de la même façon.
Pas dans les mêmes dispositions, non, c'est sûr. -0,93 pour le CAC 40, 8326 points, mais un secteur qu'on n'attendait pas au rebond quand même, celui de l'automobile, avec ces fameux chiffres dont vous parliez, avec un léger rebond quand même, notamment sur le deuxième trimestre avec du plus 11% en France pour les immatriculations, puis surtout une part de marché de l'électrique qui monte à 28%. Ça, c'est très important, effectivement, pour Renault, notamment, qui gagne quasiment 5% hein, sur le CAC 40. C'est la plus forte hausse, 26,33 €. On a Stellantis aussi, plus de 25 à 5,09 €. Donc, on a l'impression d'une petite optique value là, à court terme. On revient sur les titres qui ont le plus souffert et qui ont moins profité que les autres de cette bonne performance des marchés sur le premier semestre. Même chose d'ailleurs et peut-être même logique pour Essilor Lusotica hein, qui a signé une performance quand même terne hein, par rapport au reste de la cote. Le titre gagne aujourd'hui 4,2% à 170,95 €. Alors on sait que du côté des grands actionnaires, il y a des bisbilles familiales, hein, notamment du côté italien, oui. Donc ça pèse un petit peu sur la valeur. À noter Thales hein, qui gagne 1,96%. 229,20 €. On a Air Liquide aussi, plus 1,72 à 176,26 €. Voilà pour le cocktail des hausses sur le CAC 40. À la baisse, on a l'air de se défaire plutôt de valeurs à tendance défensive. On a Orange, moins 4,5% à 15,77 €. 4,5% quand même sur Orange, c'est pas souvent. Carrefour, moins 3,5% à 15,68 €. Engie, moins 3,33 € à 26,67 €. Et à noter, Pernod Ricard qui vient s'intercaler à moins 3,45 61,66.
Et puis une autre qu'il ne faut pas rater aujourd'hui, c'est Schneider Electric. Thibault François est avec nous pour Fastea. Rebonjour Thibault. En fil rouge, Schneider Electric perd 3% cet après-midi après l'annonce d'une acquisition. C'est vrai que leur track record en termes d'acquisition n'est pas forcément fameux. On va regarder ce site Schneider Electric aujourd'hui. Donc, pour ceux qui nous suivent à la radio, on est aussi en télé. Et là, oh, on n'est pas loin du plus bas du jour. Hein. Moins 3%, 276,75. Qu'est-ce qui cloche dans cette annonce d'acquisition?
Bah écoutez, c'est une acquisition un petit peu surprise, mais
3 milliards de dollars.
Bon, c'est quand même une grosse augmentation de capital. Alors à la hauteur du groupe, c'est 2% de la capi, donc c'est pas énorme. Mais par contre, c'est vrai que par rapport aux chiffres de Cognite, donc qui est un opérateur éditeur logiciel spécialisé dans l'intelligence artificielle en Norvège, c'est 170 millions de dollars de chiffre d'affaires. Donc ils payent ça 17 à 18 fois le chiffre d'affaires, ce qui est énorme. En plus, ça perd de l'argent, donc ça sera pas relutif pour les actionnaires à court terme. Donc tout ça, c'est pas forcément très bien accueilli par le marché. Effectivement, les dernières acquisitions ont été payées et jugées un petit peu payées cher par le marché. Donc tout ça rend un peu méfiant le marché. Surtout que c'est un éditeur de logiciels, certes dans l'intelligence artificielle, mais on peut pas vraiment dire que les éditeurs de logiciels soient en odeur de sainteté actuellement, notamment parce que l'intelligence artificielle va un petit peu, on va dire, caler ou en tout cas caper les revenus des éditeurs de logiciels dans les prochaines années. Donc un investissement de 3 milliards qui est cher et qui est pas forcément, on va dire, très bien perçu, notamment sur les éditeurs de logiciels qui vont être concurrencés par l'intelligence artificielle dans les prochaines années.
Oui, vous l'aimez quand même ce titre Schneider Electric, c'est-à-dire que chaque baisse, vous avez tendance à vouloir la racheter ou plutôt en attente?
Ouais, c'est plutôt en attente. Ouais. De l'autre côté, Schneider, elle a très bien monté, elle a un momentum qui est extrêmement favorable avec l'électrification qui est une thématique boursière qui est jouée actuellement. On pense qu'aujourd'hui, ça a plutôt très bien monté. Pour se repositionner sur Schneider, on attendra des prises de bénéfices.
Quel a été au deuxième trimestre qui s'est achevé hier en Europe, votre valeur star, la valeur qui vous a le plus favorablement surpris, Thibault, en Europe?
Écoutez, sur le deuxième semestre, Guillaume, c'est ça?
Ouais, c'était plutôt pour savoir sur le deuxième trimestre qui s'est achevé, mais on peut aussi anticiper sur le deuxième semestre votre pari, hein, c'est comme vous voulez, Thibault. Est-ce qu'il y a une valeur, là, sur le dernier trimestre qui vous a surpris particulièrement positivement, ou si vous voulez, plutôt, on anticipe la suite et vous nous dites quelle est votre pépite du nouveau semestre qui souffle? Vous faites comme vous voulez, Thibault.
Écoutez, on vient de finir sur une augmentation de capital qui a été annoncée il y a une dizaine de jours sur Hoffmann. Alors c'est un dossier qu'on aime bien parce que on est vraiment dans la partie thématique décarbonation sur la partie ciment. C'est un dossier qui a levé des fonds pour construire une nouvelle usine qui sera dans le sud de la France entre Lyon et Marseille. Et pourquoi une nouvelle usine? Parce que les volumes sont enfin de retour sur le dossier Hoffmann. C'est-à-dire qu'ils ont fait x3 l'année dernière en termes de volume. Cette année, ils sont partis sur un rythme de x2 par rapport au volume de l'année dernière. Donc, on voit bien que les volumes repartent. Et de toute façon, demain, la décarbonation, c'est un vrai sujet pour toute la partie construction, pas forcément de l'immobilier classique, mais sur toutes les constructions, même tout ce qui est éolien, etc. Et on pense que sincèrement que ça va faire partie des thématiques du futur. Donc c'est un dossier qu'on aime bien. Ils ont des moyens maintenant pour pouvoir avancer et financer leur croissance. Donc ça fait partie des sujets qui sont intéressants à court terme, mais aussi très intéressants à moyen terme.
Hoffmann, donc une valeur que vous aimez bien. Autre titre, alors que tout le monde suit, c'est Abivax. Hier, le titre s'est envolé de 40%. Là, il est suspendu aujourd'hui parce qu'Abivax annonce une levée de fonds en dollars aux États-Unis, une levée de fonds de 600 millions de dollars après le succès donc annoncé hier de son dernier essai clinique. Hier, ça avait porté le titre à plus 40 quasiment. Le titre est suspendu là, mais est-ce qu'il va falloir continuer d'acheter et renforcer cette valeur Abivax d'après vous?
Bah écoutez, Abivax vient de reprendre, elle a repris il y a quelques minutes, donc ah. Là, une petite hausse de 2-3% sur Paris.
Ouais, moi j'ai plus 3,46, mais je la vois pas bouger en l'occurrence. Mais oui, allez-y, on va continuer à la suivre. Ouais. Voilà, 3,29, donc on est à 119,30€, en hausse de 3,3%, vous avez raison Thibault.
Exactement, donc c'est plutôt pas mal, la réaction forcément est bonne. C'est-à-dire que hier ils annoncent qu'effectivement tout se passe bien en phase 3, donc ça va arriver sur le marché. Donc demain, aujourd'hui, c'est annoncé 600 millions de dollars d'augmentation de capital. C'est pour financer la commercialisation de leur nouveau médicament qui est en phase 3. Donc entre guillemets, le momentum est extrêmement favorable sur le dossier Abivax. En plus, il y a beaucoup de rumeurs autour d'une prise de participation d'un major américain sur le dossier. Donc momentum extrêmement favorable sur le dossier Abivax. Nous, c'est pas trop notre domaine d'activité. On n'aime pas trop les biotech, mais c'est vrai que le momentum est extrêmement favorable sur le dossier.
Hier, les experts de Kepler nous disaient pourquoi pas voir un titre doublé, hein, doublé par rapport à son cours, non pas d'hier, mais de lundi. En tout cas, on ne serait pas au bout de la hausse d'après eux. Vous, en revanche, vous restez un peu sur le côté de la route et plutôt neutre sur cette valeur à Bivax. Dernière question. Air Liquide aussi se distingue aujourd'hui. Thibault, plus 1,7%. Ils vont investir Air Liquide 170 millions de dollars aux États-Unis. Pour faire quoi? Pour alimenter l'usine sur place d'SK Hynix, le fameux leader coréen des cartes mémoire. Voilà, on voit à nouveau un lien là, entre Air Liquide, les data centers et l'IA.
Ouais, c'est pas un gros investissement pour Air Liquide, 170 millions de dollars. Mais par contre, c'est on va dire, c'est le symbole qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils vont aux États-Unis, ils construisent l'usine, ils construisent deux unités de production pour le leader des cartes qui est en Corée. Et tout ça, c'est extrêmement favorable. On sait bien que dans l'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est des gros consommateurs d'énergie. Et aujourd'hui, Air Liquide, qui est un des leaders mondiaux avec l'Inde ou avec Air Product, ils sont en train d'accompagner le leader coréen sur cette thématique-là. Donc c'est une news qui n'est pas exceptionnelle d'un point de vue business, mais d'un point de vue symbolique, c'est extrêmement important d'avoir ce genre de contrat aux États-Unis.
Merci Thibault pour votre analyse, vos commentaires. Thibault François pour Fasta Capital. Une idée en plus pour vos portefeuilles. Il nous rejoint, il vient nous la livrer. Antoine Poirier pour FLIG. Bonjour Antoine.
Bonjour Guillaume.
Vous n'avez que 2 minutes 30 Antoine. Votre valeur aujourd'hui, vous nous ramenez au secteur de la défense. Le titre Exosens. Pourquoi Exosens?
Tout à fait. Écoutez, aujourd'hui, je vous emmène dans l'univers d'Exosens, qui est un groupe français spécialisé dans les composants de haute technologie, notamment à destination de la défense. Concrètement, ce que fait la société, elle ne vend pas des armes, mais le composant le plus critique des jumelles de vision nocturne qui équipe la plupart des armées européennes. Pour vous situer Exosens, c'est une société qui fait un peu plus de 500 millions de chiffre d'affaires pour une capitalisation proche de 3 milliards d'euros. On a trois éléments qu'on apprécie particulièrement sur le titre. Le premier, c'est un leadership technologique difficile à reproduire. Exosens, c'est le leader mondial hors US. Or, ce leadership repose sur des barrières à l'entrée qui sont, selon nous, élevées et durables. Un exemple pour l'illustrer, il faut plus de 450 étapes de fabrication et plusieurs semaines pour produire un seul tube, sans compter les processus de qualification qui sont particulièrement longs auprès des clients. Le résultat, c'est que très peu d'acteurs sont capables de maîtriser cette technologie, ce qui confère au groupe un véritable avantage concurrentiel. Le second point, c'est un marché qui est porté par des tendances de long terme. La hausse des budgets militaires profite directement à Exosens, hein, qui a d'ailleurs fait le choix d'augmenter de près de 40% ses capacités de production d'ici fin 2027. Et ça, c'est un signal fort sur la visibilité du carnet de commandes, avec qui plus est une opportunité majeure à court terme. La montée progressive des relations commerciales avec l'armée américaine, c'est un élément qui n'est d'ailleurs pas intégré dans les objectifs financiers du groupe. Enfin, un dernier point, c'est une diversification qui renforce le profil de la société. Historiquement, vous l'avez compris, la société est positionnée sur la vision nocturne militaire et Exosens élargit progressivement son activité vers la détection et l'imagerie, notamment les systèmes anti-drones, le nucléaire ou le contrôle industriel. Et donc cette stratégie, via notamment des acquisitions ciblées, elle permet de diversifier et de capitaliser sur son savoir-faire technologique.
Il y a néanmoins un risque sur la valeur en cas de, je sais pas, de cessez-le-feu définitif sur les principaux conflits. En quoi ça affecterait le cas d'investissement dans ce groupe Exosens? Voilà, s'il y avait un peu moins de conflits géopolitiques à l'avenir, ce qui n'est pas sûr, on est d'accord.
Effectivement, à court terme, le secteur pourrait clairement corriger, on l'a déjà observé. En revanche, les fondamentaux d'Exosens changeraient peu. On voit qu'on a des grands programmes militaires qui sont engagés sur plusieurs années avec un carnet de commandes qui offre à date une excellente visibilité. Donc, à notre sens, en résumé, Exosens aujourd'hui, c'est un leadership technologique difficile à reproduire sur un marché de la défense qui est durablement porteur et avec une stratégie de diversification qui offre de nouveaux relais de croissance. Donc, c'est pour ça qu'on apprécie la société.
Exosens, Antoine Poirier, merci beaucoup Antoine. FLIG avec nous. Et si vous vous demandez qui s'introduit sur le marché américain, quel IPO à 167 millions de dollars? C'est tout petit, 167 millions, mais c'est une entreprise qui fait partie de votre quotidien si vous vivez désormais en ville. Si vous aimez rouler en trottinette notamment, cette IPO, elle a lieu aujourd'hui, Antoine.
Et oui, c'est Lime, le spécialiste des trottinettes et des vélos blancs et verts.
Oh là là, quelle horreur. Moi, je fais du vélo, je peux vous dire que quand je les croise... Enfin, ils ne respectent pas souvent les règles. Mais ce n'est pas la faute de Lime, c'est ceux qui les utilisent.
Oui, on est d'accord. Non, au contraire, ils essaient de rentabiliser. Alors, c'est quand même étonnant de voir une entreprise qui a un parc de hardware aussi aléatoire, qu'il faut souvent réparer, qu'il faut rentabiliser. Bon, c'est assez curieux de les voir s'introduire en bourse et aller chercher de la profondeur de marché à ce niveau-là de leur histoire. Alors, à noter qu'ils s'introduisent en bourse sous le nom de leur holding de tête qui s'appelle Neutron. Neutron Holdings. Pour l'instant, les transactions n'ont pas commencé. Le prix d'appel, c'est $25 l'action.
Voilà, pour les fans de trottinettes. Il y en a, hein. On en parlait aussi tout à l'heure dans USA Today, cette séquence, vous pouvez la retrouver. On était avec Thierry Guy et on lui demandait, Thierry, si parallèlement, la rotation de portefeuille qu'on observe quand même depuis quelques semaines, très puissante, cette fois est partie pour durer. Est-ce que cette fois-là, on entre dans un cycle en faveur de toutes ces valeurs qui n'ont pas bénéficié de l'IA ou qui n'ont pas été portées comme la tech ces dernières années? Le Russell 2000, là, au premier semestre, a offert une performance incroyable aux investisseurs. Le Russell 2000 a vécu son meilleur premier semestre depuis 1991. C'est fou quand même. Et les small et mid en Europe. C'est une question qu'on lui a posée. Est-ce que cette rotation va durer? Sa réponse, il y croit. Sa réponse et ses arguments retrouvés en replay donc dans USA Today. Wall Street, justement, stable en ce moment, les trois indices.
BFM Bourse, l'écho du monde.
Il y a une bonne nouvelle aujourd'hui quand même en Europe, une de plus sur l'inflation. Hier, on avait eu la bonne surprise de l'inflation qui ralentit en France ou encore en Allemagne. Là, c'est sur l'ensemble de la zone euro, le chiffre ralentit par rapport au mois de mai. Au mois de juin, l'inflation, certes, n'est pas encore dans les objectifs de la BCE, mais quand même ralentit à 2,8%. Michel Ruimi nous rejoint pour Lévy Capital Partners. Bonjour Michel.
Bonjour,
d'ailleurs, Christine Lagarde s'exprime cet après-midi sur le sujet à l'occasion du forum de Sintra. Comment vous regardez ce chiffre d'inflation? Est-ce que vous pensez que ce chiffre et la tendance peut-être au retournement à la baisse de l'inflation pourrait aider la BCE à retenir son bras, à ne plus relever ses taux pour la suite?
Pas trop. En fait, le chiffre, c'est vrai qu'il est plus favorable que celui qui était attendu, mais je dirais que cette baisse suggère que, on va dire, la désinflation ne repose plus uniquement sur l'énergie et s'étend progressivement aux services et à l'alimentation. Et donc, pour la BCE, cette bonne nouvelle, c'est un motif de soulagement après le relèvement de juin, mais c'est pas une victoire parce que le fait que la pression inflationniste s'atténue plus rapidement que prévu réduit certes la probabilité d'un nouveau durcissement monétaire à très court terme, mais il est prématuré de parler de victoire parce que l'inflation reste supérieure à 2% et les risques géopolitiques n'ont pas disparu et continuent, on va dire, d'alimenter une certaine incertitude. Donc pour moi, ce qu'on peut dire, c'est que la BCE peut désormais adopter, on va dire, une posture d'attente, mais son action sera vraisemblablement guidée par les données.
Christine Lagarde, cet après-midi, s'exprime. Donc, voici ses derniers propos. Je vous les livre. Elle estime que les risques dans la zone euro quant à l'inflation et à la croissance, ces risques sont en train de diminuer. Ils sont moins prononcés, tant en termes de perspectives d'inflation qu'en termes de perspectives de croissance. Des risques moins prononcés. Ça plaide pourquoi, ça, quand même, Michel? Ça plaide pour des statu quo, désormais?
Oui, en fait, ouais. Christine Lagarde avait déjà dit avant le début de ce forum que
elle ajoute,
il n'y avait pas de forward guidance, que en gros c'était, il n'y avait pas d'engagement anticipé et surtout dans un environnement vraiment incertain. Et ça rejoignait un peu ce qu'avait fait plus ou moins Kevin Warsh en disant où il y avait certes une priorité pour la stabilité des prix et on va dire, il n'y avait pas de forward guidance. Donc en fait, le point commun qu'on peut trouver aussi bien qu'avec entre Christine Lagarde et Kevin Warsh, et en même temps même ça confirme un peu ce discours, c'est qu'il y a une convergence vers une même doctrine de dépendance des aux données plutôt qu'un, je dirais, qu'une forward guidance. Donc en fait, on est très sensible, du moins au niveau des banques centrales, au niveau des données, et donc on ajustera la position. Il n'y a pas de position de pré-engagement, ce qui veut dire qu'on va assister à beaucoup d'incertitudes et donc un peu plus de volatilité.
Elle ajoute juste, on n'est pas dans la stagflation. Voilà ce qu'ajoute Christine Lagarde en plus de ses propos. On est vraiment en train de suivre en direct les propos des différents banquiers centraux. Puis Kevin Warsh aussi vient de s'exprimer à Sintra en confirmant qu'il ne donnerait plus de forward guidance au marché. On en parlera dans la suite de BFM Bourse. Antoine.
Bon, maintenant, même s'il n'y a plus de forward guidance, il reste des fondamentaux économiques et on a eu quand même quelques indicateurs intéressants pour l'économie américaine, à savoir l'ISM manufacturier, l'indice des directeurs d'achat, et puis l'ADP, l'enquête américaine sur l'emploi privé. Qu'est-ce que nous disent ces chiffres, Michel?
Bonjour Antoine. En fait, bonjour, l'enquête ADP, en fait, c'est a envoyé un premier signal de ralentissement du marché du travail, mais ça change pas la trajectoire de la politique monétaire, mais ça constitue un premier signal, on va dire, encourageant. Et ça veut dire que le marché du travail perd progressivement de sa surchauffe. Mais si cette tendance est confirmée par les chiffres officiels de l'emploi, eh bien, ça confortera que l'idée est que la Federal Reserve peut rester patiente avec toute nouvelle, avant toute nouvelle de décision sur les taux. Quant à l'indice ISM, je dirais qu'il a, il est plus faible depuis plusieurs mois, mais il nous donne plusieurs informations. Première des choses, c'est qu'il confirme que les industriels américains continuent de réduire leurs effectifs, c'est-à-dire qu'ils privilégient plutôt les gains de productivité que les embauches. Deuxième chose, que ce chiffre contraste avec la résilience du marché du travail américain, et ça veut dire que l'industrie ne représente qu'environ 8% de l'emploi américain. Et donc, c'est ça qui est aussi important. Et puis, troisième chose, c'est pas un signal suffisant, je dirais, pour infléchir la politique monétaire américaine. Il faudra attendre vraisemblablement le rapport officiel de l'emploi.
Merci. Michel Rumi avec nous, Lévy Capital Partners, et ses indicateurs aujourd'hui qui sont un simple impératif. Avant demain, le rapport mensuel sur l'emploi, exceptionnellement délivré un jeudi cette semaine, puisque vendredi, il n'y aura pas de séance à Wall Street. Ouais, ce sera le 4 juillet, le lendemain, samedi, mais la veille, la tradition est de rendre un jour férié aux Américains. Wall Street qui est stable aujourd'hui, le CAC 40, lui, perd 0,8%.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.
Alors on parle beaucoup de décarbonation, d'objectifs climatiques, et pourtant il y a un secteur dont on mesure pas bien l'empreinte, dont on parle en tout cas pas assez en bourse, c'est le ferroviaire. Alors on va parler de transport au sens large, mais aussi de ferroviaire, avec Jean Jardel qui nous rejoint, Canopy AM. Bonjour Jean.
Bonjour.
Bienvenue. On va parler alors transport et logistique. Vous nous ferez découvrir le ferroviaire, une valeur, faudra vous engager sur cette valeur, on est dans BFM Bourse. C'est quoi exactement d'abord le poids de ce secteur du transport et de la logistique pour nos enjeux climatiques?
Alors, d'abord, effectivement, Guillaume, le secteur du transport, c'est souvent le grand oublié du débat climatique, alors qu'il représente quand même un cinquième des émissions de CO2 au niveau mondial. Hein, c'est 8 milliards de tonnes de CO2. Et ces 8 milliards de tonnes de CO2, elles ont eu tendance à augmenter avec la reprise du trafic aérien après le Covid, et puis, évidemment, la progression du fret dans les pays émergents. Elles sont très mal réparties, ces 8 milliards de tonnes. On a 75% de ces émissions qui viennent du routier, donc c'est-à-dire du transport par camion et de la voiture individuelle. 11% c'est l'aérien, 11% aussi pour le maritime. Et le ferroviaire, c'est que 1% des émissions pour 12% du volume physique transporté. Du côté économique, c'est 10 000 milliards de dollars. Le secteur du transport et de la logistique, c'est le PIB de l'Union européenne, globalement. Ça progresse entre 5 et 8% par an en fonction des modes de transport. Et c'est un secteur qui est en proie à trois grandes transformations. Le changement, la transition écologique. Le deuxième, c'est bien sûr l'émergence du e-commerce, le développement du e-commerce. Et puis en dernier, évidemment, les recompositions géopolitiques.
Bon, alors on sait que c'était un des secteurs préférés de Warren Buffett. Hein. C'était une de ses principales lignes d'investissement, les sociétés de transport ferroviaire. Pour autant, quand on est investisseur, est-ce que c'est un secteur très dynamique en bourse, dynamique ou rendement, ou les deux, ou c'est de la croissance très lente?
Alors je vais vous dire pourquoi c'est une opportunité. Tout d'abord, il faut voir le ferroviaire comme un paradoxe. La première chose, c'est quand on regarde les émissions par tonne transportée sur un kilomètre, l'aérien c'est 600 grammes de CO2, le camion c'est 100 grammes de CO2, et le ferroviaire c'est 20 à 30 grammes, donc 3 à 4 fois moins que le camion. Et pourtant, c'est encore un mode de transport qui est beaucoup moins utilisé. Et le paradoxe, c'est que l'écart entre les problématiques de décarbonation et le besoin et la part modale qui reste limitée, ça en fait une opportunité d'investissement.
Et donc, dans ce tableau là que vous êtes en train de dresser, quel mode de transport face au climat vous semble le plus résilient? Et encore une fois, on traduira ça en idée d'investissement précise en bourse dans un instant, mais lequel vous semble vraiment résilient?
Ah, le fret ferroviaire.
Ah, voilà. Un peu téléphoné, je le reconnais.
Mais... Tout à fait, tout à fait.
En
fait.
J'aurais pu dire la marche à pied, mais bon, on a quand même évité, oui.
Non, le fret ferroviaire, tout simplement parce que on a une capacité de transport avec une réduction de 3 à 4 fois entre un conteneur qui transite par camion et un conteneur qui transite sur un train.
Oui. Et donc, dans cette industrie du rail, quelle société cotée vous semble aujourd'hui offrir la meilleure opportunité à ceux qui veulent investir en bourse?
Alors nous, ce qu'on a choisi chez Canopy, c'est Canadian National Railway, oui, une entreprise canadienne de fret ferroviaire et qui est cotée à Toronto. Et pour comprendre pourquoi c'est une entreprise qui a de la croissance, du potentiel, il faut s'intéresser en fait à la carte des voies ferrées de Canadian National Railway. En fait, le corridor continu de voies ferrées de Canadian National Railway s'étend de l'Atlantique au Pacifique jusqu'au Golfe du Mexique. Donc ça relie les trois mers principales de l'Amérique du Nord avec un corridor continu. Et en plus, c'est quelque chose qui est très difficilement reproductible, tout simplement parce que les droits de passage ont été accumulés sur plus d'une centaine d'années. Ensuite, financièrement, le coût serait prohibitif pour reconstruire un tel réseau. Et puis physiquement, c'est extrêmement compliqué parce qu'ils ont des rails dans les rocheuses, aux abords des grands lacs. Ça fait qu'il y a un fossé concurrentiel pour l'entreprise qui est considérable.
Ok. Et qu'est-ce qui vous rend à ce point confiant pour le coup sur leur trajectoire à venir?
Bien sûr, pour revenir sur les perspectives de croissance à court et moyen terme, il y a trois catalyseurs. Le premier, c'est le contexte géopolitique. Tout simplement parce que, comme on le sait tous, Donald Trump a mis en place les droits de douane vers les États-Unis et CNR est l'opérateur quasi exclusif du corridor qui relie la côte ouest canadienne au reste du continent. Et ça fait que les entreprises qui veulent éviter les droits de douane aux États-Unis peuvent faire transiter leurs marchandises par ce port, et notamment les corridors de CNR. Le deuxième catalyseur, c'est l'efficacité et la qualité opérationnelle de CNR par rapport à ses concurrents. On a un ratio d'exploitation qui est de 63%. Le ratio d'exploitation, c'est la part des charges dans le revenu de l'entreprise. 63%, c'est un des leaders en Amérique du Nord et c'est absolument incomparable avec ce qu'on voit en Europe. Ça fait que pour 17 milliards de dollars canadiens de revenus, l'entreprise arrive à sortir 5 milliards de bénéfices. C'est une entreprise qui rachète ses actions, qui augmente son dividende depuis 25 ans, ce qui marque des critères de solidité financière pour une entreprise avec autant avec dans un secteur aussi capital intensif. Et puis la dernière raison, nous chez Canopy, c'est notre conviction, c'est la dimension environnementale.
Ah oui,
vous savez bien.
Oui.
C'est parce que tous les conteneurs qui passent par CNR polluent 3 à 4 fois moins que sur le camion. Et puis CNR va un peu plus loin avec des objectifs net zéro validés par la SBTI. 10% de réduction de carburant grâce à l'IA notamment, à la formation des conducteurs de locomotives. Donc pour nous, c'est ce qu'on appelle un twin leader chez Canopy. L'importance de l'extra-financier renforce le fossé concurrentiel.
On rappelle le nom de cette société ferroviaire ?
Canadian National Railway.
Pour ceux que ça tenterait, c'est de la diversification. Merci beaucoup.
Merci.
Vous avoir accompagné aujourd'hui sur BFM Business, Canopy AM, Jean Jardel. Bon retour Jean. Le CAC 40 est en baisse, oui, pour entamer ce deuxième semestre. Ah oui, à un moment, il faut bien savoir respirer. Si vous voulez aller plus loin, prenez un grand bol d'air. C'est ce que fait le CAC 40 aujourd'hui. On espère que ça le mènera plus loin justement par la suite. En attendant, c'est une séance sous les 8004. On sera avec l'ensemble de la famille et Romain Daubry qui va nous rejoindre dans un instant. À tout de suite.
BFM Business, vos placements, nos conseils, BFM Bourse, avec Guillaume Sommerer.
La famille BFM Bourse, le seul endroit où vous choisissez activement votre famille. Sabrina Salgui est avec nous, BFM, en bfmbourse.com. Salut Sabrina.
Bonjour, oui. Bonjour Guillaume.
Et Antoine Larigauderi, en fil rouge, re-Antoine.
Et bonjour Antoine.
Bonjour Sabrina.
On sait toujours où le trouver Antoine, il est dans la famille,
oui.
Et Sabrina également. Et on sait où trouver vos articles, Sabrina, divers, variés, nombreux. Mm. Le CAC 40 recule pour entamer ce nouveau semestre, ça c'est dommage.
Ça c'est dommage, mais c'est une petite pause un peu méritée. Quand même, il a réalisé son meilleur trimestre depuis le début 2024. C'est encore mieux pour les États-Unis, quand même, qui ont réalisé quand même un très beau trimestre depuis 2020, si mes souvenirs sont bons. Donc, laissons-lui faire une pause, surtout que on a quand même un beau parterre de banquiers centraux qui s'exprime actuellement à
Sydney. Très beau parterre.
Très beau parterre, donc Kevin Warsh. Et donc, tout ça entretient un peu de prudence aussi, parce qu'on veut savoir comment les banquiers centraux vont se comporter par rapport à ces questions d'inflation, par rapport à la macroéconomie, etc. Et pour Kevin Warsh, par contre, lui, il ne veut pas forcément s'engager. Lui, on verra comment...
Ah, mais il l'assume. Il s'est exprimé à Sintra. Il dit l'ère où la Banque centrale guidait la main des marchés par des promesses à long terme doit toucher à sa fin. Il est plus sain, ajoute Kevin Warsh, il est plus sain pour l'économie que les investisseurs réagissent aux réalités des données brutes plutôt qu'à nos tentatives de modélisation du futur. Autrement dit, on va vous laisser dans le noir et vous allez faire ce que vous aurez. Ce sera Colin Maillard, vous sentirez où est le mur et vous ferez avec, vous avancerez comme ça. C'est ça son message au marché.
Oui, puis John Snow, il était pour le dollar fort.
Oui.
Il n'a jamais été aussi faible. Il raconte ce qu'il veut. C'est toujours la Fed qui donnera quand même le ton des marchés, qu'on le veuille ou non. Alors, peut-être en abandonnant
sa fameuse forward guidance. Pourquoi pas, en s'exprimant de manière plus claire et plus concise. Voilà, ça reste la Fed. Hein. Et encore une fois, la fonction fait le bonhomme. On l'a vu avec Jerome Powell. On le voit aussi avec Kevin Warsh. Et on verra si au-delà des mots se matérialisent des changements de comportement. Mais peu possible quand même que le paradigme change radicalement. Ce que je remarque sur la séance, là, pour revenir à nos moutons, CAC 40, etc., moins 0,9%. On commence le deuxième semestre sur une tendance plutôt négative. Mais ce que je remarque, c'est qu'on revient sur tout ce qui n'a pas bien marché sur le premier semestre.
Oui.
Le secteur auto, là, plus 5,30 pour Renault. Dassault Systèmes aussi, tiens, qui gagne 2,5%. Mmh. Et Sylor Lussotica, qui rebondit aussi, plus 4,6%, alors qu'on met de côté... les titres les plus résilients de la cote, pas forcément les plus performants, mais les plus résilients, que ce soit Orange ou Engie, par exemple.
Je pense qu'il est tout à fait approprié d'abandonner une guidance aussi forte. C'est toujours Kevin Warsh qui est en train de s'exprimer là. Bien sûr, dire qu'il n'y a absolument aucune guidance, je ne pense pas que ce soit vraiment possible. Là, il va dans votre sens, Antoine. La Fed restera toujours la Fed. Il y aura toujours l'impression d'une guidance. Mais que vous guidiez de manière explicite ou implicite, les marchés formeront toujours leurs propres attentes et c'est là-dessus que je mise. Voilà ce que rajoute Kevin Warsh en réponse à ce que vous disiez vous-même à l'instant, Antoine. Alors, Romain Daubry est avec nous. Ah non, attendez. Alors, Romain est là. Bonjour, Romain. On est ravis de vous retrouver.
Depuis bonjour, Guillaume.
Vous avez regardé le match de foot hier soir, vous, Romain, ou pas, la France face à la Suède?
Pas du tout. Pardon, je suis pas beaucoup de football.
Mais il était dans la jungle birmane ou quoi?
Ou fatigué?
Vous êtes où, Romain? Vous avez
qu'il aime pas le foot et qui sort
aussi, hein.
C'est pas une question de lieu, c'est une question de goût, en fait.
Voilà.
Pour être
très okay, voilà.
Je suis désolé.
Bon, alors vous avez donc échappé à la victoire, ou raté la victoire plutôt, de la France 3-0 face à la Suède. Mais vous n'allez pas échapper à cet autre match France-Suède dans BFM Bourse, Romain, parce que vous êtes là. Donc forcément, vous allez y assister à ce match. Et c'est Sabrina Salgui qui nous propose l'autre France-Suède, dans lequel, cette fois, c'est la Suède qui gagne.
Et oui, c'est la Suède qui gagne ce match. Hein. On gagnait un peu plus de 11% à la clôture d'hier, hein, sur l'OMX30, qui est l'indice phare de la Bourse de Stockholm.
Premier semestre, c'est ça ou...
Oui. En year to date.
Donc performance depuis le 1er janvier, plus 11 donc à Stockholm.
Exactement, quand le CAC gagnait un peu plus de 2. Alors, la botte secrète de cet indice suédois, eh bien, c'est ABB. ABB, c'est le Schneider Electric, hein, et qui profite également de l'essor pour ses équipements électriques. Et qui dit équipement électrique dit aussi data center, dit IA aussi. Donc ça aide énormément. Aussi, on a une autre entreprise qui s'appelle Standvik et Epiroc. En fait, c'est des fabricants mondiaux de machines-outils pour l'un et pour l'autre, d'équipements de forage. Donc en fait, c'est un indice très industriel et ces deux sociétés que je viens de citer, donc Standvik et Epiroc, gagnent un peu plus de 30% depuis le début de l'année, quand ABB, quand même notre, le grand Schneider Electric, gagne 50% depuis le début de l'année. Donc en fait, avec cette équipe de choc, en fait, ces attaquants de choc, eh bien, l'OMX 30 gagne 11% depuis le début de l'année.
France-Suède en bourse, c'est avantage à la Suède. Alors Romain, votre avis sur toutes ces valeurs d'un point de vue graphique? Non, je présente, on va pas vous embarquer là-dedans. Mais voilà, vous pourrez dire que vous étiez au rendez-vous de France-Suède quand même, malgré vous peut-être.
Oui.
Ouais. Allez, comment vous sentez les forces en présence en cette entame de deuxième semestre? Là, on démarre à la baisse en Europe, moins 1 le CAC 40, l'Eurostock 50 perd 0,8, quand Wall Street, au contraire, et surperforme à nouveau.
On a pas mal d'indécisions. On l'a vu, on l'a commenté ensemble depuis une quinzaine de jours déjà. Des dégagements qui ont été assez marqués sur la tech américaine, notamment du côté des semi-conducteurs. Ça se confirme aujourd'hui. Hein. On voit Micron qui baisse pas mal. SanDisk qui avait fait beaucoup parler d'elle avec sa progression, qui perd 10% aujourd'hui. Et en contrepartie, on voit des titres très en retard comme Meta qui prennent près de 8%. Donc sur les marchés américains, ce sont des arbitrages. Ce qu'on peut dire et qui est intéressant comme élément pour commencer donc ce nouveau trimestre, c'est que bien les deux derniers jours de hausse sur le S&P ont été marquées par une baisse de la position ouverte sur les futurs, c'est-à-dire pas de soutien. Ça veut dire pas une pression baissière, mais toujours des opérateurs qui sont en retrait et des probables retracements. On l'a vu à l'ouverture sur le Nasdaq 100 qui perdait plus d'1%, qui a rebondi et qui revient un peu à la baisse. C'est un peu indécis. Et donc pour l'instant, situation de consolidation plutôt solide, mais avec à envisager des arbitrages un petit peu brutaux. Sur l'indice Eurostoxx, on accumule en partie haute, mais je vous faisais part de mes craintes quant à un mouvement de retracement. Pour l'instant, on est calé entre deux niveaux de prix. L'intérêt, pareil, est un peu en retrait pour l'instant. Donc, on a plutôt une situation d'attente entre des niveaux de prix intéressants, des arbitrages favorables sur certains indices, et puis on voit un Novo Nordisk qu'on évoquait en début de semaine qui paye, qui prend plus de 3% aujourd'hui. Donc, il y a des choses positives qui se mettent en place, et puis il y a des prises analyse de bénéfices sur d'autres secteurs. Donc, rotation et stand-by.
Les prochains seuils graphiques, là, ces seuils graphiques qui vont peut-être faire la tendance de ce deuxième semestre qui démarre, ils sont où?
On va commencer par le Nasdaq 100. Le support à court terme à préserver, c'est 29 670. Et la résistance, c'est 30 552 points. C'est la sortie de ce niveau de prix qui nous en dira plus. Si on regarde l'Eurostox, et je pense qu'en Europe, c'est l'indice à surveiller pour l'instant, puisqu'il a très bien performé, on est calé entre deux niveaux importants. C'est 6202, le niveau d'alerte. Dans ce cas-là, on déclenchera un mouvement de baisse de l'ordre de 4 à 5 %. Et puis le plafond de verre, c'est 6328 points. On l'a testé. On n'arrive pas à s'en extraire pour l'instant. Est-ce qu'il intéressant, c'est que la lecture de la position ouverte sur les marchés d'options indique que les opérateurs n'envisagent pas le débordement de ce niveau de 6350 points. Donc, on a un plafond de verre. Si, en revanche, on passe 6328, ça risque d'accélérer assez brutalement. Dans ce cas-là, on peut aller chercher 6400, aux alentours des 6450 points. Donc, pour l'instant, situation d'attente sur ces deux gros indices.
Oui, à noter un mouvement assez étonnant. Le CAC 40 accélère à la baisse, là, hein, moins 1%, on est à 8318 points. Mais alors, l'or remonte à une vitesse fabuleuse, on est à 4117 $. On était tout juste au-dessus des 4000 ce matin. Donc voilà, il se passe des choses et il y a de la volatilité.
Et l'euro stock 50 aussi accélère à la baisse, moins 0,9.
Oui, absolument.
Bon, on va regarder.
Romain, tiens, un truc qui va faire plaisir à Alexandre Baradez, c'est une de ses grandes thèses du moment, hein, notre copain d'IG, les valeurs chinoises. La tech chinoise. Et vous voyez du potentiel graphique sur Baidu.
Ben oui, Baidu, elle vient donner un signal graphique intéressant, effectivement. C'est un titre qui a, depuis septembre 2025, accéléré à la hausse. Elle avait formé un gap haussier hebdomadaire. Et depuis, elle avait systématiquement préservé ce niveau qui était situé au-delà de 108,10. Or, la semaine dernière, elle a rompu ce support, elle a clôturé à ce niveau-là, mais elle a été comblée, ce gap qui avait été laissé ouvert, et elle réagit depuis, elle réintègre 108,10, et elle accélère à la hausse, elle prend 4% encore aujourd'hui. Pour moi, on a un signal haussier qui se déclenche tant qu'on est au-delà de 108,10 pour aller rallier une zone de prix qui est située entre 135 et 143 dans un premier temps. Donc, il y a un mouvement qui se met en place de ce côté-là. Il faut dire que le modèle de Baidu, hein, c'est de changer son approche publicitaire pour justement s'orienter vers l'IA. Donc, à surveiller, mais il y a peut-être quelque chose qui se met en place de ce côté-là, effectivement, un arbitrage intéressant puisque c'est le cœur de l'intérêt pour l'instant, évidemment.
Et il y a quelque chose qui est en train de se passer sur les marchés, parce que c'est assez spectaculaire, je viens de tomber dessus. Le Bitcoin vient de se redresser à une vitesse foudroyante à 60 000 $. Oui. Peut-être un petit déséquilibre, là, on va guetter.
Romain ?
Ouais, 58 800 sur le Bitcoin, c'est un très gros niveau. Donc il y a un niveau pivot. Si on le rompt, c'est 54 000. Si on arrive à le préserver, ben on peut reconstruire quelque chose. Donc la réaction sur ce support est vraiment importante.
Cette séance est intéressante, hein, parce qu'il y a aussi à suivre Meta. C'est vous qui l'avez repéré, Antoine. Ce titre Meta, il gagne 10%, 11% même en ce moment aux États-Unis. Vous nous l'avez annoncé. Meta se développe dans le cloud, mais alors encore plus dans les infrastructures cloud, là.
Oui, c'est-à-dire que en fait, ils ont une telle puissance de feu maintenant en matière de calcul, qu'ils vont vendre leur capacité via un business cloud bien précis. Et en ça, il rejoint un petit peu ce que fait déjà Amazon ou ce que font d'autres, mais avec une volonté vraiment de rentabiliser au maximum tous les investissements qu'ils ont fait en termes d'infrastructure. On sait qu'ils ne vont pas manquer de clients, il va falloir trouver le juste prix. Mais là, effectivement, ils ont décidé leur capacité excessive, disent-ils, à vendre à des entreprises.
Meta développe donc une activité d'infrastructure cloud qui vendra l'accès à sa puissance de calcul IA et qui doit concurrencer Amazon, Microsoft, Google. D'après Bloomberg, ce titre Meta gagne 10%. Vous avez trouvé une valeur qui fait presque aussi bien. Alors hier, elle gagnait même 40%, Sabrina. C'est votre petite pépite de la semaine, votre grosse pépite. Peut-être amenée à devenir grosse. Il s'agit d'Abivax.
Je vous laisse.
Qui était... Oui, Romain, vous pouvez nous laisser. Mais...
À plus, Romain.
Au revoir,
Romain.
Salut.
On se retrouve à 17h35. À toutes. Je te call tout à l'heure. Pour la clôture, bien sûr. Il nous accompagne chaque soir pour la clôture. Oui. Donc, c'est Abivax qui, tout à l'heure, était suspendu de cotation. D'abord, pourquoi? Et le titre a repris, là, en hausse de 3% en ce moment,
alors,
Abivax.
Pourquoi? Parce que hier, donc, ils ont gagné, alors, pas 40%, mais moi, je dirais 38,66%.
Oui.
Non, bon, voilà, je voulais pinailler un peu là-dessus. Non, plus sérieusement, en fait, Abivax a lancé une opération d'augmentation de capital. Ils voulaient lever 600 millions de dollars aux États-Unis, puisque sont aussi cotés aux États-Unis. Et finalement, ils lèvent beaucoup plus, 800 millions. Dans la perspective de cette augmentation de capital, ils ont préféré suspendre la cotation en attendant les résultats de cette opération. Là, en fait, ils ont profité d'une fenêtre de tir favorable parce qu'hier, ils ont gagné 38%. après des résultats cliniques plutôt positifs. Ils avaient fait la même chose en juillet 2025. Le titre, il avait gagné 500%. C'est là où Abivax s'est révélé au grand public et aux investisseurs parisiens. Parce qu'ils avaient annoncé des très bonnes nouvelles sur leur candidat médicament contre des maladies inflammatoires de l'intestin qui sont très, très invalidantes. Et là, rebelote, ils ont fait la même chose. Donc, ils ont profité de cette hausse pour lancer une grosse levée de fonds parce que le but, c'est quoi? C'est d'amener cette molécule jusqu'à la commercialisation et ils espèrent déposer le dépôt de cette commercialisation, de cette mise sur le marché à la fin de l'année aux États-Unis.
Consacreriez-vous un article?
Oui.
Oui, disponible, oui. Donc sur BFMbourse.com.
Oui, disponible, il restera toujours sur BFM.
Et la famille, vous en faites tous partie sur nos réseaux sociaux X et LinkedIn. Chaque jour, on vous challenge à travers notre question incroyable trimestre boursier duquel on est sorti. Là, le deuxième trimestre, c'est fou. Wall Street a pris 20%, l'Europe 10%. Une performance aussi bonne au troisième trimestre qui s'ouvre, pour vous, est-elle probable, improbable, impossible? Comment vous le voyez? Est-ce qu'on peut faire comme au deuxième trimestre sur ce nouveau trimestre qui s'ouvre? C'est la question. Est-ce que vous avez une réponse, Sabrina? Beaucoup d'éditeurs ont participé sur nos Félix et nos LinkedIn. On a des commentaires d'ailleurs sur lesquels on va rebondir. Allez-y.
Alors je vais aller très, très rapidement. J'irai pour plus l'Europe. Moi j'y crois un peu plus pour l'Europe. Dans la mesure où si l'inflation se calme, s'il n'y a pas de hausse de prix, si les prix restent à ces niveaux-là, en tout cas à Paris, si le luxe se révèle. En tout cas, ça peut être un super catalyseur, comme c'était l'année dernière. Pareil, le luxe avait fait un premier semestre catastrophique avant de se révéler avec des bons chiffres aux États-Unis. Eh bien, pourquoi pas, l'Europe pourrait prendre sa revanche.
Bon, donc pourquoi pas, et une perf positive, à nouveau, spectaculaire peut-être au troisième trimestre sur l'Europe plus que sur les États-Unis. Et vous, Antoine, est-ce que vous imaginez un troisième trimestre aussi bon que le deuxième?
Elle a tout dit, Sabrina. Elle a tout dit. Non, mais je pense, franchement, que le troisième trimestre va pas être génial. Premièrement parce que, et j'en fais pas mystère, et c'est peut-être à force d'animer des pays aussi le matin parce que j'ai la double dose, mais on me met des warnings partout pour cet été. Entre problématiques monétaires, problématiques de change, volatilité, mais même en intraday sur un certain nombre de valeurs, inquiétude autour de la valorisation de l'IA, etc. Position très très importante à travers le monde prise avec des effets de levier qui peuvent avoir des effets en chaîne. L'été s'annonce quand même assez tumultueux. Septembre, c'est traditionnellement une période pas géniale pour le marché non plus. Donc, fin de l'été plus septembre, à mon avis, on va accumuler du retard, surtout du côté de Wall Street. Mais au milieu de tout ça, effectivement, le CAC 40 a peut-être une chance de marquer des points. Et le réveil du luxe, moi je l'attends, ça pourrait être non seulement notre planche de résilience, mais aussi notre booster pour de meilleures performances que Wall Street.
On va regarder vos réponses à vous tous. Est-ce que le troisième trimestre pourrait être aussi bon que le deuxième en bourse? Oui, non, probable, pas probable. Vous êtes une majorité à dire, ouais, possible quand même, à 49%, donc plutôt raisonnablement optimiste. Et vos arguments en commentaire sur lesquels on rebondira tout à l'heure dans le club à partir de 17h. Sabrina, quand même aujourd'hui, il y a une exception dans ce marché. Enfin, c'était l'exception, maintenant c'est devenu la norme. Schneider était en forte baisse. Le CAC désormais est aussi en forte baisse. Mais Schneider à moins 4, là. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont annoncé une nouvelle acquisition, le rachat du groupe Cognite. Et c'est clairement sanctionné. Pourquoi?
Pourquoi? Parce que Cognite, rapidement, c'est un fournisseur de logiciels spécialisé dans l'IA. Donc Schneider a annoncé cette acquisition hier soir après la clôture des marchés parisiens. Mais voilà, c'est le prix. Un peu plus de 3 milliards de dollars qui fait tiquer le marché. On le voit, la réaction, elle est à moins 4%. Parce que déjà, le prix payé fait ressortir des multiples plutôt généraux en termes de chiffre d'affaires et surtout pour une société, en fait, qui, eh bien, n'est pas encore rentable. Et surtout, cette nouvelle emplette pose la question de l'allocation du capital. En fait, ça, c'est vraiment un point qui crispe un peu les investisseurs sur Schneider Electric. C'est-à-dire, en fait, la capacité pour Schneider d'arbitrer entre des acquisitions à bon prix, mais aussi redonner un peu de retour à l'actionnaire avec les dividendes, avec les rachats d'actions, et ça, ça fait pas forcément plaisir à l'investisseur.
Mais le marché n'accueille pas bien la nouvelle avec ce titre, donc deuxième plus forte baisse du CAC cet après-midi. Voilà, c'est cher payé.
Oui.
Bon, article
complet. C'est le marché qui le juge.
Et chaque jour, 16h50, il est 16h50, un expert de marché nous rejoint pour déconstruire les idées reçues. C'est Thibaut Prébé aujourd'hui qui nous accompagne. Thibaut Prébé est le président de ECAT et auteur de ce livre « Démographie, la bombe tranquille ». Bienvenue Thibaut.
Bonsoir.
Ravi de vous retrouver. Les cours du pétrole ont bien baissé. On a un baril de Brent sous les $72 d'ailleurs aujourd'hui. La crise d'Hormuz est terminée pour les marchés. Alors certains le pensent, pas vous, vous vous dites bullshit. Vous foudroyez, Thibault, cette idée que la crise d'Hormuz est passée. Ceci dit, Détroit n'a plus l'air d'être un sujet, c'est vrai, pour le marché.
Non, c'est plus un sujet, on va dire, géopolitique. Hein, et je me suis dit, avec ce bullshitomètre, que vous deviez vous ennuyer. Ça fait au moins deux jours que vous n'en avez pas parlé. Donc je me suis dit,
ouais, un peu plus
il est temps de rappeler que les conséquences économiques vont être majeures et que c'est un sujet qui n'a pas fini d'animer l'actualité, même si, effectivement, on est un peu moins dans le drame et l'urgence.
Alors il y a les conséquences économiques, mais il y a aussi les conséquences politiques hein, de ce qui s'est passé en fait. Et c'est vraiment pour le coup un sujet pour les marchés.
Ouais, c'est énorme parce qu'en fait la géopolitique déjà il y a plusieurs choses intéressantes. La première c'est qu'on était passé un moment sur l'idée que les Américains pouvaient intervenir où ils voulaient, ils escamotaient un président. Là il y a quand même un coup d'arrêt énorme. Donc la puissance géopolitique américaine elle vient de prendre une claque qui est colossale, ce qui change un peu le rapport de force. Et là où il y a un changement de rapport de force qui est colossal, c'est pour Israël. C'est-à-dire que Israël est en train d'un côté de se fâcher avec son plus gros allié qui était les Américains, de pour le coup avoir fâché les trois quarts de l'Europe. Donc on a un changement de rapport de force dans le soutien à Israël qui est énorme. Dans le même temps, on va avoir des pays du Golfe qui, eux, ont pas tellement envie d'être embarqués là-dedans et qui sont plutôt dans la temporisation. Et un Iran où on ne sait pas très bien si d'un côté, objectivement, ils sont plutôt gagnants du conflit. Et de l'autre côté, l'idée que tous leurs dirigeants puissent se faire squeezer en quelques minutes n'est pas non plus forcément très rassurant pour ceux en cours. Donc la bascule géopolitique est très différente après cette crise, un peu comme la bascule économique, où on va avoir quand même quelques souffrances de cette consommation qui a été très affectée par la hausse du prix du pétrole. Donc je pense quand même qu'on sort de là d'une situation très différente, mais plutôt moins bonne que la précédente.
Oui, mais est-ce qu'on peut pas se dire que finalement, avec cette fermeture du détroit d'Hormuz, on a pu faire un vrai stress, on a presque envie de dire un crash test. On se disait avant la fermeture de ce détroit, si un jour ce détroit ferme, qu'il y a des difficultés, qu'on entend parler de mille dans le détroit, l'économie mondiale va s'effondrer. Là, on a fait le stress test et elle ne s'est pas effondrée. Donc de ce point de vue, on se dit qu'on en sort relativement bien.
En fait, elle ne s'est pas effondrée. La réalité, c'est que l'économie mondiale ne peut pas s'effondrer sur un truc. Puis ça n'a pas été finalement.
On ne disait pas ça.
Mais la réalité quand même, c'est que les chiffres éco du premier trimestre sont dégueulasses. Quasiment partout. Je vous rappelle qu'en France, on est quand même tranquillement en croissance négative, hein, ce qui est quand même pas un truc qui nous arrive tous les deux jours, même si par rapport au potentiel, c'est pas énorme, mais par rapport au déficit qu'on a arrivé en croissance négative, c'est quand même pas flamboyant, que aux États-Unis, les chiffres étaient quand même très très médiocres, et que les chocs économiques, on a toujours cette idée, un peu comme les hausses de taux, que ça va durer deux semaines. Mais ça met du temps à se répercuter, comme les droits de douane à l'époque, etc. Donc moi, je pense qu'on va traîner une économie assez moribonde pour le reste de l'année. Donc je pense que c'est quand même un truc qui est un peu sous-estimé dans la réémanence de ce choc et de l'impact sur les consommateurs.
Oui, enfin, je sais pas, l'inflation recule déjà très nettement, là, au mois de juin, en zone euro. Quels dégâts voyez-vous durer encore des mois et des mois, même si ce détroit finissait par vraiment rouvrir?
Mais moi, j'avais toujours été dans la logique qu'on a plus de rythmes déflationnistes qu'inflationnistes. Vous savez, le marché, c'est toujours des sinusoïdes. Plus vous appuyez dans un sens, plus les rebonds sont forts. En réalité, quand vous avez ce choc de consommation où globalement, tout le monde a dû mettre son budget sur le pétrole et moins sur le reste, le risque derrière, c'est comme la consommation va baisser, au moment où tout le monde peut reproduire du pétrole en revendre, on a le risque plutôt d'aller dans l'excès inverse. Et sur le pétrole, c'est ce qu'on a toujours fait. On a quasiment toujours eu des chocs haussiers et baissiers suivis de l'inverse. Parce qu'en fait, comme c'est quelque chose de très élastique, qui se stocke pas très bien, parce que le pétrole, faut être très clair, c'est facile à stocker d'un point de vue technique, mais comme c'est volumineux, ça coûte cher à stocker par rapport à ce que ça vaut. Et donc, dans la réalité, c'est qu'on est souvent dans des montagnes russes sur le pétrole. Je pense qu'on a aujourd'hui plus de risques sur l'économie, qui serait faible, et donc qui serait plutôt déflationniste et baissier sur le pétrole, que l'inverse. Ça reste néanmoins une situation à gérer qui est préoccupante.
Bon, Thibault, à quelque chose malheur est bon. C'est comme quand Donald Trump menace de retirer les troupes américaines de l'OTAN ou de quitter l'OTAN, etc. Ça nous met un coup de pied aux fesses et on réfléchit enfin à une défense intégrée à l'échelon européen. Là, cette crise du détroit d'Hormuz, elle aura peut-être eu le mérite de nous faire dire non seulement on va aller peut-être explorer d'autres zones pétrolifères, et puis se mettre un bon coup de pied aux fesses aussi pour les énergies renouvelables.
Oui, c'est sûr que de toute façon, il y a une réaction et l'Europe est plutôt un truc qui avance au gré de ces crises, hein, puisqu'on le voit même sur la défense de l'Ukraine où on a pris le relais des Américains. On a des changements en fait qui sont aussi techniques, qui vont changer les choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit que maintenant les guerres se règlent aux drones. Et qu'en fait, on a vu ce parcours de Rheinmetall qui était monstrueux, puis maintenant on se demande si mettre des millions dans un tank, c'est pas un peu à la ramasse, si c'est à coup de drones de 10 000 balles qu'on veut faire. Et puis, ce qu'on voit aussi dans ces deux conflits en cours, qui vont plutôt dans le sens du plus faible, c'est que en réalité, quand les moyens de défense sont très peu chers, ça devient de plus en plus difficile, quelque part, d'être l'assaillant. Et donc ça, c'est aussi un rapport de force dans la dissuasion qui change de manière extrêmement intéressante. Et donc c'est vrai qu'avec en plus cette démographie qui baisse, on voit qu'en fait, on a complètement refermé l'ère de l'infanterie. Plus personne n'a envie, avec un gamin, d'aller le perdre sur un champ d'opération. Et en revanche, on est dans l'ère du drone. Et donc c'est vrai que je pense qu'il se passe des changements assez structurels. Et dans ce cadre-là, l'Europe, qui avait plein de retard sur plein de sujets, se retrouve pas si mal loti dans ce domaine-là. Donc c'est quelque chose qui, à mon avis, me paraît intéressant pour la construction européenne.
Bon, alors c'est très intéressant ce que vous nous dites, et ça veut dire qu'il y a aussi des leçons positives à tirer de ce qui vient de se passer. Là, vous venez d'en tirer une.
Toujours. Moi, je suis toujours. Il y a toujours des leçons positives. Ça, l'économie, vous savez, ce qu'on appelle les boucles de retour. Il y a toujours du positif et du négatif. Ce qu'il faut, c'est bien le voir.
Il y a peut-être une autre leçon positive à tirer de la fermeture du détroit d'Ormuz, c'est que même s'il rouvrait, on imagine que beaucoup d'acteurs vont vouloir quand même diversifier beaucoup plus qu'avant leurs sources d'approvisionnement énergétique, moins dépendre du Golfe et du pétrole. Et même dans l'univers pétrolier, peut-être la relance de certains projets de recherche-exploration pour, là aussi, moins dépendre de la production de cette région du Moyen-Orient. Ça, c'est positif aussi. On peut l'imaginer. Ouais, si ça a lieu, ce sera positif.
C'est positif, mais en train de parler de stratégie. Or, on sait que quand un événement conjoncturel s'arrête, et j'ai peur qu'on ait un peu la même chose sur l'aspect climatique, on oublie quand même souvent trois jours après l'aspect stratégique pour revenir sur ce qui est le plus rentable. Donc, je pense que techniquement, vous avez raison. De là à dire qu'on pourra faire autrement, puis il ne faut pas se mentir, le gros du sujet de la dépendance, c'est une dépendance asiatique qui n'a pas des tonnes d'autres possibilités. Donc en réalité, on est sur un monde qui s'est régionalisé sur le pétrole. Et s'il a tenu bon dans cette crise, c'est justement parce que beaucoup de zones étaient capables de faire sans. Est-ce qu'on ira beaucoup plus loin? Stratégiquement, c'est souhaitable. Je ne suis pas sûr que ce soit crédible.
Thibault, il nous reste 2 minutes à passer encore ensemble en famille. Ce conseil de famille se poursuit. Vous voulez rester?
Avec plaisir.
Oui. Donc vous restez pour le dessert alors.
Bien sûr, alors, toujours, moi je suis gourmand.
Voilà, c'est le Facteur X. Tout de suite, chaque jour, on vous challenge, vous tous qui nous suivez sur les réseaux sociaux, vous faites aussi partie de cette famille et on met en avant un poste à forte valeur ajoutée. Aujourd'hui, c'est ce poste de Charlie qui nous dit que, Sabrina, l'une des surprises des derniers mois aussi, c'est la revanche du dollar sur l'or. On n'arrêtait pas de dire à la fin de l'année dernière que l'or, c'est l'avenir. Pour l'instant, c'est plutôt le dollar qui est en train de remonter la pente que l'or.
C'est sûr que l'or qu'on croyait continuer sur sa folle lancée, là, ça a perdu. Je crois que l'or a accusé son pire trimestre depuis une dizaine d'années. On a perdu 28% par rapport au record de janvier. Bon, il y a eu aussi, et Thibault a un peu évoqué ce sujet-là, c'est que pour acheter du pétrole, certains pays ont bien puisé dans leur or, donc fallait le vendre. Et aussi, c'est tributaire aussi de la politique monétaire américaine. C'est sûr que peut-être le marché se dit finalement le Kevin Warsh va être un peu moins tributaire et le pantin de Donald Trump, oui. On a cru le croire. Ouais.
Bon, on verra. Là, Thibault fait de grands yeux. Gardez votre fiel pour la suite. Non, juste pour vous parlerez de Kevin Warsh dans un instant parce qu'il a fait des déclarations très intéressantes.
Avec grand plaisir.
Mais juste sur la surprise des 5 derniers mois, c'en est une ou pas pour vous d'ailleurs? L'or qui s'est effondré alors que le dollar a repris 7%, ce qui est énorme pour une devise plus 7% en 5 mois.
Ouais, mais je pense aussi que sur l'or, il y avait une bulle spéculative. Les gens achetaient parce qu'ils pensaient que ça va monter. Ouais. Ça se termine toujours. Maintenant, vous savez, le dollar, on se raconte des histoires fascinantes. La réalité, c'est qu'il s'est introduit contre euro à 1,16, qu'on tourne tout le temps autour de notre 1,16, et que, au final, on raconte beaucoup d'histoires, alors que sur une tendance de long terme, il se passe quand même quasiment rien, en fait, sur l'euro-dollar.
Ah bon?
Bah ouais, franchement, on a fait un 12, un 18, un 18, un 14, un 14, un 19, un 19, un 13. C'est pas fascinant,
d'accord.
En vrai.
Oui, d'accord. Oui, c'est comme les fluctuations de température, quoi.
Mieux que ça bouge pas tant, parce que c'est grave.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a connu des mouvements avec un euro qui allait jusqu'à 1,60, qui est tombé à 0,95. Là, je veux dire, depuis quelques temps, les variations en vrai, elles sont pas hyper importantes.
Thibaut, c'est le genre de gars, vous le mettez devant un film, il s'ennuie, quoi. Dès qu'il faut.
Si le film est ennuyeux,
il s'ennuie tout.
Désolé, Guillaume, mais c'est une corrélation. Sur le dollar, on s'emmerde, c'est tout. Désolé.
Bon, Thibaut, vous restez avec nous. Dans un instant, vous nous parlerez de Kevin Warsh, je vous interpréterai, vous analyserai. Liserez effectivement ces déclarations de l'après-midi et celle de Christine Lagarde. On a des marchés toujours en baisse de quasiment 1% pour le CAC 40. Merci Sabrina.
En tout cas, moi, je ne me suis pas ennuyée ici.
Mais non, on ne s'ennuie jamais.
Ah bah oui.
Vous savez, c'est grâce à vous. C'est un peu comme l'or et le dollar. Si l'or baisse, c'est parce que le dollar monte. Il y a aussi une corrélation entre les deux. Ben, si vous ne vous ennuyez pas, c'est parce que vous êtes sacrément bonne à chaque fois. C'est pour ça que c'est bien aussi qu'on s'ennuie.
Ça fait plaisir
d'entendre
ça.
D'un instant, la dernière ligne droite de cette séance. Avec Antoine, Thibault et beaucoup d'autres invités. À tout de suite.
BFM Bourse, vos placements, nos conseils sur BFM Business.